Entre vendredi 12 et samedi 13 avril au soir, environ 300 drones, roquettes et missiles en tout genre ont été lancés par l'Iran et ses alliés sur l'État d'Israël. Pour répondre à cette attaque, le bouclier antimissile, le fameux dôme de fer, a été sollicité bien sûr, mais c'est aussi l'aviation américaine avec l'appui des Britanniques et des Français qui a arrêté une bonne partie de l'attaque au-dessus du territoire irakien.
Les Israéliens et leurs alliés ont très bien défendu leur intégrité territoriale et leur territoire la nuit dernière. La défense aérienne anti-aérienne israélienne est réputée comme une des meilleures au monde. Elle n'a pas fait défaut, elle n'a pas été saturée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été saturée? Grâce à ses piquets, grâce à ses postes avancés dans des territoires alliés aux Israéliens ou aux amis d'Israël.
Au final, tout ce déchaînement militaire n'aura été que d'une portée symbolique, car il y aurait eu seulement une victime côté israélien, et ce serait une femme musulmane. Pourquoi préciser qu'elle est musulmane? Car en termes politiques, objectivement, Israël aura beaucoup plus de difficultés à l'ériger en martyr. Vous trouvez ça cynique? Eh bien oui, ça l'est. Alors pour redonner un peu de contexte à cet événement, pourquoi est-ce que l'Iran a frappé Israël? C'est une réponse à l'attaque du 1er avril qu'Israël a menée contre un consulat iranien à Damas, en Syrie, afin d'éliminer une grosse dizaine de hauts dignitaires iraniens. L'Iran a donc voulu frapper fort en retour pour ne pas laisser cette attaque impunie, mais ils n'ont pas voulu frapper trop fort entre guillemets non plus, afin de ne pas trop risquer une escalade incontrôlée. D'un côté, le président iranien déclare que cette attaque est au sommet de sa puissance. Et ça laisse assez songeur, car techniquement, ils n'ont rien accompli du tout. Et de l'autre côté, bien qu'au sommet de sa puissance, le président iranien déclare que si Israël en reste là, de leur côté, ils n'iront pas plus loin. Bon, du côté d'Israël, il y a des divisions sur la tactique à adopter pour répondre. Mais en termes de stratégie, les choses sont dites clairement. Il y aura une réponse d'Israël et elle pourrait bien être massive. Voici les grandes lignes des déclarations d'Israël. Premièrement, l'Iran est un problème mondial. Deuxièmement, face à la menace iranienne, nous mettrons en place une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran. En l'état actuel des choses, il semble bien que ce soit plutôt le gouvernement de Netanyahou qui avance ses pions en cherchant à provoquer l'escalade. N'oublions pas que Benjamin Netanyahou et son gouvernement restent tout de même un gouvernement radical et dangereux, assez prompt à la guerre. Comme le dit Pierre Conessa, au Moyen-Orient, le conflit s'articule autour de trois radicalismes. Les Mollahs en Iran, le Hamas à Gaza et le gouvernement de Netanyahou. Le gouvernement de ce dernier a d'ailleurs largement autorisé et cautionné des pratiques pour le moins critiquables.
Vous en avez d'autres, effectivement, qui continuent à coloniser la Cisjordanie. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui des colonies illégales menées par des juifs radicaux, protégées par Tsahal, avec des routes interdites aux Palestiniens, et ça se fait alors qu'on parle de l'Iran. Donc il faudrait arrêter de penser que la faute est d'un seul côté.
Gardez en tête que d'après les chiffres qui circulent, l'armée israélienne, Tsahal, a fait environ 30 000 morts à Gaza, tandis que de son côté, les pertes s'élèveraient plutôt à 10 000. Gardez en tête que l'attaque iranienne qui a fait un mort fait suite à une attaque sur le sol iranien en Syrie qui a fait une quinzaine de morts dans les hauts rangs iraniens. Faites ce que vous voulez de ces informations, mais personnellement je me dis que les tensions dans la zone ne sont pas prêtes de se calmer, car la raison et la pondération semblent avoir quitté chacun de ces trois camps il y a bien longtemps. Plus fondamentalement, pourquoi est-ce que ces tensions sont aussi vives et depuis aussi longtemps ? Manifestement, car les populations en place ne souhaitent pas coexister les unes avec les autres. N'y voyez aucun jugement de valeur, mais la guerre est le prolongement de la politique lorsque le dialogue n'est plus suffisant. Il est possible que le couvercle soit remis sur cette région et que les conflits qui s'y déroulent soient de nouveau étouffés pour un temps, mais il est également possible que les Israéliens cherchent à provoquer l'escalade en embarquant de plus en plus leurs alliés qui renâclent à y aller. Pour l'heure, les Américains ne semblent pas très volontaires non plus pour une guerre d'envergure au Moyen-Orient. Mais qui sait? Donc ce que je retiens de mon côté, c'est que savoir qui a tort ou qui a raison ne m'intéresse pas. Pourquoi? Car personnellement, je n'ai pas envie de m'enrôler dans ce conflit pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et de toute façon, j'ai conscience de mon insignifiance à l'échelle de ces confrontations. Dit autrement, mon avis ou mes actions n'auront aucune espèce de conséquence sur ce conflit, j'en suis bien conscient. Par contre, si je m'intéresse à ce conflit, c'est bien dans l'optique d'essayer de voir comment je peux m'adapter à cette réalité géopolitique pour ne pas être pris entre deux feux. Physiquement, et en tout cas pour l'instant, vivant en Europe, il y a peu de chances que l'on soit impliqué militairement. Mais sur le plan patrimonial, il me semble important de passer en revue les actifs à risque et comment trouver des sources de résilience. Alors allons-y. Tout d'abord, où est-ce qu'il ne faut pas être? C'est un point important car en général, quand on évite les plus mauvais placements, on s'en sort sans trop de dommages. La première réponse en cas de guerre et en termes de mauvais placement, c'est d'éviter les obligations d'État qui se lancent dans ces guerres, pour des raisons simples et évidentes. La guerre, ça coûte cher et ça a plutôt tendance à détruire la valeur qu'elle a créée. C'est donc sans surprise que les taux d'intérêt demandés par le marché à Israël montent depuis 2022. Et ceci alors que la Banque centrale d'Israël a baissé ses taux en janvier. Pour rappel, quand le prix d'une obligation monte, son prix descend. Bon, c'est pas catastrophique car Israël reste très riche, mais il va être difficile de maintenir une dette sous contrôle dans le cas où la région s'embrase. Mais comme je sais que vous êtes sûrement très peu nombreux à être exposés aux obligations israéliennes dans votre portefeuille patrimonial, je rappelle que la France n'est pas activement en guerre en Israël, mais elle revendique régulièrement d'être en économie de guerre contre la Russie. Ce qui signifie concrètement que dans une économie de guerre, la dette n'a plus d'importance. Or, si l'on regarde les obligations à 10 ans en France, c'est pas très folichon et c'est assez logique. Et là, des obligations françaises, vous êtes encore trop nombreux à en avoir dans votre patrimoine, dans vos fonds euros d'assurance-vie en l'occurrence. Soyez conscient qu'en France, on assiste peut-être bien à une fuite devant la monnaie aujourd'hui, comme Charles Gave l'explique dans son article sur l'Institut des Libertés. Comment est-ce que cela se produit ? Techniquement, le prix des actions françaises se décorrèle complètement du prix des obligations. Sur ce graphique, c'est la courbe noire qui s'envole. Cette courbe noire, c'est le ratio entre les actions contre les obligations qui reste historiquement, au cours des 50 dernières années, plutôt constante comme vous pouvez le voir sur le graphique. Or, aujourd'hui, elle est sortie du canal de 3 écarts-types. Et 3 écarts-types, ce n'est pas rien du tout. Cela signifie que, historiquement, ce type d'événement arrive moins de 0,2% du temps. Vous voyez également que les étrangers sont en train de se désengager de la dette française. Pour bien comprendre, sachez que la dette d'un pays se divise en deux. Il y a la dette en cash, sans risque, c'est la dette de court terme. Plus vous êtes court terme, moins vous prenez de risques sur votre capital. Et puis à l'inverse, plus vous allez prendre le risque du temps, plus vous allez rentrer dans ce que l'on appelle le marché obligataire. Pour les dettes de court terme, on va chercher ce que l'on appelle des fonds de trésorerie. Tandis que pour une exposition à la bonne gestion d'un pays, on va rechercher du 7 ans ou du 10 ans principalement. Donc, ma première idée, c'est de fuir les obligations européennes ainsi que les obligations de pays en guerre. Concernant les obligations américaines, sachez qu'en cas de crise, vous les verrez toujours monter car il n'y a aucun marché plus profond et plus sécurisant que le marché du dollar. Tous les milliardaires et les grands fonds de gestion de ce monde savent qu'en cas de grisou, le marché du dollar, que ce soit du cash ou des obligations, est le seul qui peut accueillir de grandes quantités de liquidités sans exploser à la hausse. Dans l'idée, ce n'est pas que le dollar soit fondamentalement une valeur d'avenir, mais si vous essayez d'abriter des milliards sur le franc suisse, la couronne norvégienne ou suédoise, alors vous allez faire exploser son prix et vous retrouver face à la banque centrale du pays en question qui ne sera pas contente du tout. À défaut de pouvoir acheter des obligations chinoises facilement, il ne reste que l'euro et le dollar. Or, l'euro n'est qu'un second choix par rapport au dollar, surtout aujourd'hui. Et oui, si la crise augmente entre Israël et le monde musulman au Moyen-Orient, le prix du pétrole va logiquement monter en flèche, ce qui va augmenter la récession en Allemagne et globalement dans la zone euro. Un conflit ouvert au Moyen-Orient, c'est un euro qui est stable au mieux ou qui baisse contre un dollar qui monte. Dans un deuxième temps, l'immobilier des pays en guerre ou dont la population s'appauvrit est globalement à éviter aussi. Dans un pays qui subit des bombardements, la raison est évidente. Mais dans un pays qui finance une guerre et dont la population s'appauvrit, acheter de l'immobilier qui est une façon de s'indexer à la richesse d'une population ne me semble pas particulièrement judicieux. Concernant les actions, c'est plus compliqué. Si vous essayez de choisir les actions par vous-même afin d'acheter des entreprises qui profitent de la guerre, pourquoi pas? Mais ce sera sans moi, car j'ai toujours évité soigneusement l'industrie de l'armement en investissement. Je sais qu'une industrie de l'armement est un outil essentiel pour un pays souverain. Mais dans mes valeurs et dans ma psychologie, je suis plutôt tourné vers la création de richesses plutôt que dans les tueries de masse. Après, si vous achetez les indices, sachez que beaucoup de gens ont déjà fait comme vous puisque notre courbe noire s'est envolée. Et ce n'est pas bête puisque l'on a vu en Turquie, qui vit une fuite devant la monnaie depuis quelques années, que cela a très bien marché pour protéger la valeur. Les Turcs qui ont mis leur patrimoine en actions turques ont gagné de l'argent dans une période où la monnaie s'est effondrée. Il y a aussi un deuxième actif qui a cartonné en Turquie et qui cartonne depuis toujours en matière de conservation de la valeur, c'est l'or. Par contre, l'or n'est pas un investissement, tout comme le cash n'en est pas un. C'est une sécurité, une assurance. vous savez que si vous mettez deux Napoléons dans la boîte à bijoux de maman, ça va finir par monter ou baisser, mais il en restera toujours quelque chose. Après, si vous n'avez pas trop d'appréhension avec la volatilité, il y a Bitcoin. On est sur un nouveau cycle haussier, a priori, et on est environ au plus haut du dernier cycle, donc ce n'est pas un mauvais pari. Mais on reparlera bientôt de Bitcoin avec Didier Darcet. Enfin, reste à vous débancariser, histoire de ne pas risquer de vous faire piquer votre épargne pour raison de guerre ou je ne sais quoi. À ce sujet, pour opérer vite et plutôt bien pour les petits patrimoines, on a créé le protocole XBX pour sortir son argent légalement et rapidement de l'Union européenne. Mais je vous préviens, plus votre patrimoine est gros, plus ça va être compliqué. Si vous avez un patrimoine plus élevé, on a créé une formation complète, le cockpit, car là, il va falloir y réfléchir un peu plus longtemps pour organiser votre stratégie patrimoniale. Or, une stratégie patrimoniale se construit sur la base d'un projet de vie. C'est pour ça qu'il faut une formation plus longue afin de se donner les moyens de bien penser à tout. Si ça vous intéresse, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, nous avons aussi notre formation pour l'expatriation. Là aussi, vous trouverez les liens en description. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces trois outils différents ? Tout simplement car ils reflètent mon parcours personnel. J'ai commencé par me débancariser. Ensuite, je me suis posé pour établir ma stratégie patrimoniale. Et enfin, après mûre réflexion avec ma femme, on a fini par déménager en Suisse. Aujourd'hui, j'y suis depuis bientôt 3 ans, j'ai vendu tout mon immobilier et mes deux dernières sociétés en France seront fermées cette année. Tout se passe bien et je suis très heureux de ces choix.
Ah bah c'est super.
La dernière chose dont je peux vous parler car je la pratique, c'est un message aux entrepreneurs. Depuis 3 ans, mon obsession c'est d'internationaliser mes clients pour ne plus dépendre de la zone économique de l'Union européenne. Au bout de 3 ans, j'ai enfin trouvé le moyen de le faire avec Data Factory qui opère aux USA. Rendez-vous compte quand même que sur la dizaine d'investisseurs de très haut niveau de Data Factory, ce sont tous des Gaulois, mais l'écrasante majorité d'entre eux ne vivent plus en France. Si vous voulez comprendre à quel point la France est en train de brûler la chandelle par les deux bouts, allez voir cette vidéo dans laquelle je décris la phase de déclin que vit la France en ce moment. Vous y apprendrez que cette situation est tout autant classique dans l'histoire des nations qu'elle est désagréable à vivre, et quelles sont les étapes qui se succèdent jusqu'à ce qu'un rebond puisse se produire.